Chapitres 13 et 14. Abraham et Lot. Retour d'Égypte. Et Abraham monta d'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et il s'en alla, du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Chapitre 13, verset 1 à 4. Lorsque, d'une manière ou d'une autre, l'état spirituel du croyant est venu à baisser et qu'il a perdu la communion avec Dieu, il court le risque, dès que sa conscience commence à se réveiller, de ne pas saisir la grâce telle qu'elle est et de ne pas entrer pleinement dans la réalité de sa restauration devant Dieu. Or, nous savons que tout ce que Dieu fait, il le fait d'une manière qui est digne de lui-même, soit qu'il sauve, soit qu'il restaure. Nous voyons ici non seulement qu'Abraham est remonté du pays d'Égypte, mais qu'il est revenu jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Dieu ne sera satisfait à l'égard de celui qui s'est égaré que lorsqu'il l'aura ramené dans le droit chemin et qu'il l'aura parfaitement rétabli dans sa communion. Nous penserions volontiers qu'une place moins élevée que celle qu'il occupait auparavant convient à celui qui s'est écarté. Et il en serait ainsi, en effet, s'il était question de nos mérites. Mais comme il s'agit uniquement de grâce, il appartient à Dieu de déterminer la mesure du relèvement. Et cette mesure est « Si tu reviens, ô Israël, dit l'Éternel, reviens à moi. » Jérémie 4, verset 1. Voilà comment Dieu relève. Et faire autrement serait indigne de lui. Il restaure de manière à exalter et à glorifier les richesses de sa grâce. Quand le lépreux était ramené dans le camp, il était conduit à l'entrée de la tente d'assignation. Lévitique 14, verset 11. Quand le fils prodigue est revenu à la maison paternelle, le père l'a fait asseoir à table avec lui. Quand Pierre a été relevé de sa chute, il a pu dire aux hommes d'Israël: vous avez renié le saint et le juste. Acte 3, verset 14. Les accusant ainsi de ce qu'il avait fait lui-même dans les circonstances les plus graves. Dans chacun de ces cas, et dans beaucoup d'autres, nous voyons que Dieu restaure parfaitement. Il ramène l'âme à lui dans toute la puissance de la grâce et dans toute la confiance de la foi. Si tu reviens, reviens à moi. Une âme véritablement restaurée aura toujours un sentiment profond du mal dont elle a été délivrée, et ce sentiment se manifestera par un esprit de vigilance, de prière, de sainteté et de prudence. Dieu ne nous relève pas pour que nous prenions le péché plus à la légère encore et que nous y retombions de nouveau. Il dit « Va, dorénavant ne pêche plus. » Jean 8, verset 11. Plus le sentiment de la grâce de Dieu qui nous a relevés est profond, plus le sentiment de la sainteté de ce relèvement sera profond. C'est un principe établi et enseigné d'un bout à l'autre de l'Écriture, en particulier dans les deux passages suivants. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Le sentier qui convient à l'âme qui a été restaurée est le sentier de la justice. La jouissance de la grâce produit une vie dans la justice pratique. Parler de grâce et vivre dans l'injustice, c'est changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Jude 4. Lot, neveu d'Abraham. Il y avait, dans la compagnie d'Abraham, quelqu'un qui ne marchait pas dans l'énergie d'une foi personnelle, ni dans le sentiment de sa propre responsabilité. Lot, dès le commencement, a été plutôt poussé par l'influence et l'exemple d'Abraham. En parcourant les Saintes Écritures, nous voyons que, dans les grands mouvements produits par l'Esprit de Dieu, certaines personnes, croyantes ou non, se sont associées à ces mouvements sans participer elles-mêmes à la puissance qui les avait produits. Ces personnes poursuivent leur chemin pendant un temps, soit en pesant comme un corps mort sur le témoignage, soit en entravant carrément celui-ci. Ainsi, l'Éternel appelle Abraham à sortir de son pays et à quitter sa parenté, mais en sortant de son pays, il amène sa parenté avec lui. Il s'ensuit que Térakh le retarde dans sa marche jusqu'au moment où il est enlevé par la mort, tandis que Lot l'accompagne un peu plus loin jusqu'à ce que les convoitises mondaines le surmontent et amènent sa ruine. On peut faire la même observation dans le grand mouvement de la sortie d'Israël hors d'Égypte. Un ramassis de peuple suivit les Hébreux et devint pour eux un sujet d'affaiblissement et de trouble, comme nous voyons dans le livre des Nombres. Le ramassis de peuple qui était au milieu d'eux s'éprit de convoitise, et les fils d'Israël aussi se mirent encore à pleurer et dirent « Qui nous fera manger de la chair ?» Nombre 11, verset 4. De même encore au premier jour de l'Église, et depuis lors, dans tous les mouvements produits par l'Esprit de Dieu, on a vu un grand nombre de personnes s'associer à ces mouvements sous des influences diverses, mais se retirer bientôt et reprendre leur place dans le monde. Mais seul ce qui est de Dieu subsistera. Il faut que nous réalisions le lien qui nous unit au Dieu vivant. Il faut que nous sentions que c'est lui qui nous a appelés à la position que nous occupons, autrement nous n'aurons ni fermeté ni constance dans cette position. Il ne suffit pas de suivre l'ornière d'un autre. Dieu trace à chacun de nous le chemin qu'il doit suivre, donnant à chacun une sphère d'action et des devoirs à remplir, et il nous faut savoir quel est notre appel et quels sont les devoirs qui s'y rattachent, afin que, par la grâce qui nous est donnée chaque jour, nous puissions travailler efficacement à la gloire de Dieu. Il importe peu quelle est notre mesure, pourvu qu'elle ait été donnée par Dieu. Nous pouvons avoir reçu 5 talents, ou un seul, Matthieu 25, verset 15, mais si nous faisons valoir pour notre Maître ce qu'il nous a confié, nous entendrons certainement de sa part les paroles « Bien, bon et fidèle esclave ». Examinons donc sérieusement, chers lecteurs, si nous sommes conduits par une influence divine ou humaine. Si ce que nous le faisons parce que d'autres l'ont fait, ou parce que le Seigneur nous appelle à le faire. Si nous ne faisons que nous appuyer sur l'exemple et l'influence de ceux qui nous entourent, ou si nous sommes soutenus par une foi personnelle. C'est sans doute un privilège de jouir de la communion des frères, mais si nous nous appuyons sur eux, nous ferons bientôt naufrage. De même, si nous dépassons notre mesure, notre action en souffrira. Lot quitta Ur des Chaldéens, mais il tomba dans la plaine de Sodome. L'appel de Dieu n'avait pas atteint son cœur, et son œil était resté fermé à la gloire de l'héritage de Dieu. L'amour du monde. Il peut être profitable d'examiner de plus près ce qui engagea Lot à quitter le chemin du témoignage de Dieu. Il y a dans l'histoire de tout homme des moments d'épreuve qui révèlent le fondement sur lequel il s'appuie dans sa marche, les motifs qui le font agir et les objets qu'il poursuit. Il en fut ainsi de Lot. Le point de départ de sa chute fut la querelle entre les bergers de son bétail et ceux du bétail d'Abraham. Quand on ne marche pas avec un œil simple et avec des affections purifiées, on rencontre facilement une pierre qui fait broncher. Si ce n'est pas un jour, ce sera l'autre. Ce qui importe, ce n'est pas la cause apparente de l'abandon du bon chemin, mais sa cause réelle, profonde, cachée bien loin peut-être de l'attention publique, dans les chambres secrètes des affections du cœur, là où le monde, sous une forme ou sous une autre, a trouvé à se loger. La querelle entre les bergers aurait été facile à apaiser sans dommage spirituel ni pour Lot ni pour Abraham. Elle ne fit en réalité que fournir à Abraham l'occasion de montrer la puissance de la foi et cette élévation morale dont la foi revêt celui qui croit, tandis qu'elle ne fit que manifester la mondanité dont le cœur de Lot était rempli. Cette querelle de bergers ne produisit pas plus la mondanité dans le cœur de Lot que la foi dans le cœur d'Abraham. Elle ne fit que mettre en lumière, dans l'un et dans l'autre cas, ce qui existait de fait dans le cœur de chacun d'eux. Il en est ainsi aussi aujourd'hui. Des controverses et des divisions s'élèvent dans l'Église de Dieu, elles deviennent pour plusieurs une occasion de chute, et les font retourner au monde d'une manière ou d'une autre. Alors ces personnes s'en prennent aux controverses et aux divisions et font retomber sur ces choses la responsabilité qui leur revient à elles-mêmes. tandis qu'en réalité, ces choses n'ont été que le moyen de manifester le véritable état des âmes et les penchants des cœurs. Quand le monde est dans le cœur, on en trouve toujours le chemin. Et c'est montrer peu de grandeur morale que de blâmer les hommes et les circonstances quand la racine du mal gît en nous-mêmes, quelque déplorable que soient d'ailleurs les controverses et les divisions. Il est triste et humiliant de voir des frères se quereller en présence même des Cananéens et des Phérésiens. Leur langage devrait toujours être « Qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, car nous sommes frères. » Verset 8. Mais encore, pourquoi Abraham ne choisit-il pas Sodome? Pourquoi la querelle ne le poussa-t-elle pas dans le monde et ne devint-elle pas pour lui une occasion de chute? Son cœur aurait aussi pu être attiré par les plaines bien arrosées, mais il ne permit pas à son cœur de choisir. En laissant le choix à Lot, il remit à Dieu le soin de choisir pour lui. Voilà la sagesse qui vient d'en haut. La foi laisse toujours à Dieu le soin de fixer son héritage. Elle peut dire « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est échu. » Psaume 16, verset 6. La foi juge que ce qui lui est choix est agréable parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Ainsi, celui qui marche par la foi peut volontiers laisser le choix à celui qui marche par la vue. Abraham dit « Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Et si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Il y a là tout à la fois du désintéressement et de l'élévation morale, et aussi quelle sécurité. Quel fut donc le choix de Lot? Il prit pour sa part Sodome, le lieu même sur lequel le jugement allait tomber. Comment et pourquoi fit-il un pareil choix? C'est qu'il regarda à l'apparence extérieure et non au vrai caractère et à la destinée future du lieu. Le vrai caractère de Sodome, c'était la méchanceté. Verset 13. Et sa destinée future, le jugement, la destruction par le feu et le soufre venant du ciel. Mais, dira-t-on, Lot ignorait tout cela. C'est possible, et Abraham aussi peut-être. Mais Dieu le savait, et si Lot avait laissé à Dieu le soin de lui choisir un héritage, Dieu ne lui aurait certainement pas donné un lieu qu'il allait bientôt détruire. Mais Lot voulut choisir pour lui-même. Il jugea que Sodome lui convenait, bien que les hommes de cette ville aient été de grands pécheurs devant l'Éternel. Ses yeux s'arrêtèrent sur les plaines bien arrosées. Son cœur fut captivé par elles et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Versets 10 à 12. Tel est le choix que fait l'homme naturel. Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. De Timothée 4, verset 10. Lot abandonna Abraham pour la même raison. Il quitta le lieu du témoignage et passa dans celui du jugement. Confirmation des promesses à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi et vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. » Versets 14 et 15. La séparation d'avec Lot, bien loin de causer un dommage spirituel à Abraham, servit à manifester les principes célestes qui le gouvernaient et fortifia la vie de la foi dans son âme. Elle servit, en outre, à éclaircir sa voie et à le délivrer d'une compagnie qui ne pouvait que l'entraver. Souvenons-nous, et c'est là une vérité sérieuse et encourageante à la fois, qu'à la longue, chacun trouve son propre niveau. Ceux qui courent sans avoir été envoyés finissent par tomber d'une manière ou d'une autre et reviennent aux choses qu'ils avaient une fois abandonnées. D'un autre côté, ceux qui ont été appelés de Dieu et qui s'appuient sur lui sont soutenus par sa grâce. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Proverbe 4, verset 18. Cependant, prenons garde. Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. 1 Corinthiens 10, verset 12. Car certainement, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. Luc 13, verset 30. Nous voyons fréquemment des chrétiens entrer dans un service particulier sous l'impression qu'ils y ont été appelés de Dieu, et après un temps, nous les voyons faillir dans leur course. Il faut que chacun reçoive son appel et sa mission du Maître lui-même. Tous ceux que Christ appelle à un service particulier seront infailliblement soutenus dans ce service, car jamais il n'envoie quelqu'un à la guerre à ses propres dépens. 1 Corinthiens 9, verset 7. Mais n'oublions pas qu'il faut calculer la dépense avant d'entreprendre de bâtir une tour ou d'aller à la guerre. Luc 14, verset 28 à 32. On verrait moins de confusion et de misère au milieu de nous si nous prêtions une plus sérieuse attention à ces exhortations. Abraham fut appelé de Dieu à quitter Ur pour Canaan. Aussi Dieu le conduisit tout le long du chemin. Lorsqu'il s'arrêta à Charan, Dieu l'attendit. Lorsqu'il descendit en Égypte, Dieu le ramena. Quand il eut besoin de direction, Dieu le guida. Lorsqu'il y eut une querelle et une séparation, Dieu prit soin de lui. Abraham ne perdit rien par la querelle. Il eut après, comme avant, sa tente et son autel. Et Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Verset 18. Lot peut bien choisir Sodome. Abraham cherche et trouve son tout en Dieu. Il n'y avait point d'autel à Sodome. Tous ceux qui cheminent dans cette direction cherchent tout autre chose qu'un autel. C'est l'amour du monde qui les y conduit. Ô, que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent. Psaume 31, verset 19. La bataille des rois. Nous avons dans le chapitre 14 l'histoire de la révolte de 5 rois contre Kedor-Laomer et de la bataille qui en fut la suite. Le Saint-Esprit peut s'occuper des mouvements des rois et de leurs armées quand ces mouvements touchent en quelque manière au peuple de Dieu. Abraham n'était pas personnellement impliqué dans cette révolte et dans ses conséquences. Sa tente et son autel ne risquaient pas de donner lieu à une déclaration de guerre ni d'avoir à souffrir du développement ou de l'issue de cette guerre. La part de l'homme céleste ne peut jamais exciter la convoitise ou l'ambition des rois ou des conquérants de ce monde. Mais si Abraham n'était pas intéressé dans cette bataille de 4 rois contre 5, il n'en était pas de même de Lot. Celui-ci se trouvait, par sa position, enveloppé dans toute cette affaire. Le sentier de la foi, par la grâce de Dieu, nous place bien souvent en dehors des circonstances qui affectent ce monde. Mais si nous abandonnons notre position de bourgeois des cieux, Philippiens 3, verset 20, si nous recherchons un nom, une place et une part sur la terre, nous devons nous attendre à participer aux convulsions et aux vicissitudes de ce monde. Lot s'était établi dans les plaines de Sodome et fut par conséquent profondément affecté par les guerres de Sodome. Quel témoignage Lot pouvait-il rendre dans Sodome? Un témoignage bien faible, tout au plus. Le fait même qu'il s'était établi dans ce lieu avait donné le coup de mort à son témoignage. En prononçant une seule parole contre Sodome et ce qui s'y faisait, il se serait condamné lui-même, car pourquoi y serait-il entré? Mais il ne paraît pas, d'après ce que nous lisons dans l'Écriture, qu'en dressant ses tentes jusqu'à Sodome, Lot ait eu pour but de rendre témoignage à Dieu. Des intérêts personnels et de famille semblent avoir été le mobile déterminant de sa conduite. Et, bien que l'apôtre Pierre nous dise que Lot tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques, 2 Pierre 2, verset 8, il est clair que Lot n'a pu avoir que peu de force pour combattre cette méchanceté, si même il a été disposé à le faire. L'histoire d'Abraham et de Lot prouve éloquemment que le moyen le plus sûr et le plus efficace d'être utile à ce monde, c'est de se séparer de lui et de témoigner contre lui. L'intervention d'Abraham. Cependant, souvenons-nous-en, la vraie séparation du monde ne peut résulter que de la communion avec Dieu. Nous pourrions nous séparer du monde et faire de notre personne le centre de notre existence, mais la séparation pour Dieu est tout autre chose. Elle nous fait sortir de nous-mêmes et nous rend actifs dans l'amour pour les autres, tout en donnant à Dieu la place qui lui appartient. Ainsi, pour Abraham, nous voyons que le fait même de sa séparation le rendit capable de rendre un service efficace à celui qui, par sa marche mondaine, s'était trouvé impliqué dans la calamité. Et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés 318 hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Versets 14 à 16. Malgré tout, Lot était le frère d'Abraham, et l'amour fraternel doit agir. Un frère est né pour la détresse. Proverbe 17, verset 17. L'adversité rend le cœur sensible aux peines de ceux même dont nous avons dû nous séparer. L'affection d'un cœur de frère répond aux besoins d'un frère dans l'adversité. Bien que la vraie foi nous rende toujours indépendants, elle ne nous rend jamais indifférents. Elle ne s'enveloppe jamais tranquillement de chauds vêtements pendant qu'un frère souffre du froid. La foi purifie le cœur. Acte 15, verset 9. Elle opère par l'amour. Galates 5, verset 6. Elle est victorieuse du monde. 1 Jean 5, verset 4. Ces trois choses apparaissent dans toute leur beauté en Abraham. Son cœur était purifié des souillures de Sodome, il montra une vraie affection pour Lot, son frère, et finalement, il remporta une victoire complète sur les rois. Melchisédek et la tentation du roi de Sodome. Toutefois, celui qui marche par la foi n'est pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Souvent, de nouvelles tentations viennent l'assaillir immédiatement après une victoire. C'est ce qui arrive à Abraham. Et comme il s'en revenait, après avoir frappé Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Verset 17. Cette démarche cachait une séduction perfide. Le roi de Sodome représente un aspect de la puissance de l'ennemi bien différent de celui que nous voyons en Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. L'un nous fait entendre comme le sifflement du serpent, les autres comme le rugissement du lion. Mais, qu'Abraham ait affaire au serpent ou au lion, la grâce de Dieu lui suffit, et cette grâce agit en sa faveur au moment même du besoin. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il le bénit, et dit, « Béni soit Abraham, de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. » Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Versets 18 à 20. Il nous faut remarquer le moment auquel Melchisédek entre en scène et le double effet de son ministère. Ce n'est pas pendant qu'Abraham est à la poursuite de Kedorlaomer que Melchisédek vient à sa rencontre, mais bien quand le roi de Sodome vient au-devant d'Abraham. Pour entrer dans une lutte d'un caractère plus sérieux que celle dont il venait de sortir, Abraham avait besoin d'une connaissance de Dieu plus profonde aussi. Le pain et le vin de Melchisédek restaurèrent l'âme d'Abraham après sa lutte avec Kedorlaomer, et sa bénédiction fortifia le cœur du patriarche pour la lutte qu'il allait avoir à soutenir contre le roi de Sodome. Il vaut la peine de considérer avec attention la manière dont Melchisédek présente Dieu. Il l'appelle le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Puis il déclare qu'Abraham est béni de la part de ce même Dieu. C'est une puissante préparation pour la rencontre avec le roi de Sodome. L'homme béni de Dieu n'avait pas besoin de ce que l'homme de la terre pouvait lui offrir. Et si le possesseur du ciel et de la terre occupait ses pensées, les biens de Sodome ne pouvaient avoir que peu d'attrait pour lui. Aussi, quand le roi de Sodome lui fait la proposition « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi », Abraham lui répond « J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Si, depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas « Moi, j'ai enrichi Abraham ». Versets 22 et 23. Abraham refuse d'être enrichi par le roi de Sodome. Comment aurait-il pu songer à délivrer Lot de la puissance du monde si lui-même avait été gouverné par ce monde ? Je ne puis délivrer mon prochain qu'autant que je suis libre moi-même. Aussi longtemps que je suis moi-même dans le feu, il est impossible que j'en retire un autre. Le chemin de la séparation pour Dieu est le chemin de la puissance, comme il est aussi le chemin de la paix et du bonheur. Le monde, sous ses formes diverses, est le grand instrument dont Satan se sert pour affaiblir les mains et aliéner les affections des serviteurs de Christ. Mais quand le cœur est droit, le Seigneur vient toujours réjouir encouragé et fortifié au moment convenable. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Deux Chroniques 16, verset 9. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28, verset 7. Il enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Psaume 144, verset 1. Et il brisera bientôt Satan sous nos pieds. Romains 16, verset 20.